5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Eh bien, comme chaque mois, le groupe Orion nous emmène dans la conquête de l'espace, son histoire, son actualité. Aujourd'hui, Jean-Michel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des bases de lancement. Alors, les bases de lancement, il y en a un certain nombre en service. Hein. On va d'abord savoir, expliquer un petit peu ce que l'on trouve sur une base de lancement. C'est quoi, au fait, une base de lancement? Ensuite, où on les implante et pourquoi? Et puis, quelles sont les principales bases en service aujourd'hui? Tout de suite, on annonce que notre prochaine émission sera consacrée au Centre spatial guyanais de Kourou, qui est une base de lancement qui nous est chère.
Puisque c'est l'Europe. C'est notamment le CNES, le Centre national d'études spatiales, à l'origine de cette base.
Alors, une base de lancement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on trouve sur une base de lancement?
On va trouver beaucoup de choses. Hein. Tout d'abord, le pas de tir. Hein. Ça, le pas de tir, c'est le point le plus important parce que c'est de là que va partir le lanceur. Quand on parle lanceurs, ce sont des fusées, hein, donc des lanceurs, il y en a de tout type. Hein, on a parlé dans nos précédentes émissions d'Ariane, on a parlé des fusées américaines, dont Titan, Atlas, des fusées Proton, du Soyouz russe.
Donc voilà. On va voir un pas de tir, adapté à chaque fusée.
En principe, oui, un pas de tir bien adapté. Alors effectivement, il y en a qui se reconvertissent, qui s'adaptent aux évolutions. Les pas de tir, par exemple, de Cap Canaveral, donc Cap Kennedy, le célèbre 39A qui a lancé les hommes vers la Lune, a été reconverti après pour les navettes spatiales. Alors il y avait le 39B aussi. Voilà, donc ce sont en général des zones territoriales immenses.
Alors le pas de tir, donc c'est un endroit qui est dédié, qui est souvent à l'écart aussi, parce qu'on voit souvent, quand on regarde des lancements à la télévision, des gens qui sont dans des bâtiments. Donc, est-ce que tout ça est au même endroit? Il y a des distances de sécurité entre les uns et les
tout
autres?
Tout à fait, on ne peut pas mettre un pas de tir sur la place du Breuil. Donc, pour prendre un exemple un peu amusant, donc on va s'éloigner un peu des zones trop habitées. Donc, en principe, on va le situer, si possible, près de la mer aussi, pour les éventuels dégâts. Hein,
Oui. Voilà. Donc le pas de tir, on revient sur le pas de tir puisqu'on était parti pour présenter effectivement cet endroit-là. C'est un endroit qui est à l'écart des autres bâtiments, des gens qui travaillent effectivement. On parle de Carnot.
Alors les Carnot, ce sont les canaux d'éjection. Donc lorsque on va allumer donc le lanceur, il va y avoir une chaleur intense, il va y avoir un dégagement de fumée. Donc les Carnot, ce sont des espèces de tunnels qui sont sous le pas de tir, qui va permettre l'évacuation des gaz, de la chaleur. Et souvent donc aussi il y a de l'arrosage. Hein. Je ne me souviens plus le nombre de tonnes d'eau qu'il fallait pour la navette spatiale, mais c'était énorme pour arroser tout ça au moment du décollage, pour étouffer aussi les fumées, les poussières.
Donc ça, c'est constitué de béton.
Ah, c'est du béton.
Très, très important, des couloirs d'évacuation pour...
Béton hyper solide, bien sûr.
Donc les Carnot. On a aussi, on parle de pylônes anti-foudre. Effectivement, la foudre.
Effectivement, un lanceur doit être protégé contre les décharges venues du ciel, on va dire. Donc, ils peuvent endommager le lanceur, puisque c'est un lanceur, c'est quand même une source pour pouvoir capter la foudre. Hein. Donc il faut le protéger. Donc souvent, on va avoir un ou plusieurs pylônes anti-foudre autour du lanceur.
Alors, il y a aussi dans ces images désormais traditionnelles des lancements de fusées, il y a tout ce problème, ces tuyaux, cette alimentation en permanence jusqu'au dernier moment.
Jusqu'au dernier moment, notamment dans ce qu'on appelle les ergols, hein, l'oxygène liquide, l'hydrogène, tout ça. Tout ce qu'on va mettre dans un lanceur va être chargé au dernier moment pour éviter d'abord les risques d'incendie, tous les accidents qui peuvent avoir lieu sur un pas de tir. Et jusqu'au dernier moment. C'est pour ça, lorsqu'on voit le départ d'un lancement, ça fume. Hein, voilà, c'est de la condensation.
Et alors, toute cette énergie, ces carburants, ces gaz, etc., ils sont produits sur place. Ils arrivent comment sur ce pas de tir?
Alors, suivant les différents pays, ça peut arriver par train, ça peut arriver par camion, ça peut être conçu sur place. Effectivement, on en reparlera lorsqu'on verra Kourou. Donc, il y a une quarantaine d'entreprises sur le site de Kourou. Donc, mais on verra ça lorsque nous parlerons de l'ESA, l'espace l'espace spatial européen.
Alors, il y a aussi dans les bases de lancement, puisqu'on vient de voir le pas de tir qui est quand même le point central, effectivement, des lanceurs. Mais avant d'en arriver là, ces lanceurs sont construits, sont assemblés, sont amenés sur le pas de tir. Il y a combien de personnes qui travaillent en principe sur une base de lancement, qu'elle soit soviétique, américaine ou européenne?
Ça va dépendre de la grosseur du pas de tir. Il est bien évident que si on a un petit pas de tir qui fait des petits lanceurs, il y aura moins de personnes. Et si on a un gros pas de tir, donc pour Kourou, c'est 1600 personnes.
1600 hein. personnes.
Voilà.
Donc en fait, il y a des métiers différents. Si on les prend dans l'ordre chronologique, d'abord, il faut construire ce lanceur avant de l'amener. Donc il est construit ailleurs ou il est construit sur place
Il est construit ailleurs. Il y a peu de lanceurs qui sont construits sur le pas de tir,
hein, si on prend l'exemple d'Ariane, c'est une fusée qui est construite à différents endroits.
Par plusieurs morceaux.
Par plusieurs morceaux.
Voilà, donc si vous prenez les différents étages, si vous prenez les boosters à poudre, si vous posez la coiffe, par exemple, la coiffe de la fusée Ariane est construite en Suisse.
D'accord. Donc il y a déjà ce problème d'arrivée. Une fois arrivé sur cette base de lancement, il y a tous les métiers de l'assemblage, du montage finalement de la fusée, et puis aussi peut-être des satellites à lancer. Donc ça représente beaucoup de place sur une base de lancement, cette fonction d'assemblage.
Alors cette fonction d'assemblage, il va y avoir la réception, qui va arriver soit par avion, soit par bateau, suivant où on est. Ensuite, il y a le stockage, et ensuite il y a le bâtiment d'assemblage, et souvent ce qu'on appelle le BAF, bâtiment d'assemblage final, avant d'emmener la fusée sur son pas de tir.
Et comment elle y va, cette fusée, sur ce pas de tir? Il y a une grande distance, c'est de l'ordre de quoi
ça peut varier de 2-3 kilomètres à plusieurs kilomètres.
À plusieurs kilomètres, 5-6 kilomètres peut-être.
Plus, oui, ça dépend. Alors, je n'ai pas en tête que ce soit, on va dire, les plus grandes bases comme Baïkonour, comme Cap Kennedy. Donc, une histoire amusante, si vous voulez, puisque vous me parlez donc du transport. La navette spatiale, si vous avez souvenir, elle n'était pas sur rail. Elle était sur chenille. Voilà. Et tout simplement, ça s'est réglé, ça s'est décidé dans un restaurant.
Ah! Il y a une petite histoire derrière.
Petite histoire derrière. Alors, tout simplement, c'était au moment où les Américains étudiaient tout ce laisser lanceur. Il y avait un ingénieur qui est en train de calculer pour amener ce poids énorme sur le pas de tir, justement, et qui est allé dans un restaurant discuter avec un collègue qui lui travaillait dans les pelles mécaniques.
Voilà, une belle alliance.
Alors, ils discutent. Alors, je ne sais pas si c'était au moment du dessert, mais ils discutent. Et puis, l'ingénieur de pelle mécanique dit, mais nous, on peut mettre tout simplement sur chenille. On peut mettre des poids énormes sur chenille pour aller jusqu'au pas de tir. Ça ne bouge pas, c'est très stable. Et c'est pour ça qu'est né le crawler, ce qu'on appelle le crawler.
Le crawler. Et voilà. Donc, pour bien comprendre, c'est souvent une question qu'on nous pose aussi. Donc, cette fusée ou cette navette, elle arrive horizontalement sur son engin de transport, on va dire, où elle arrive déjà dressée.
Les deux systèmes.
D'accord.
Les deux systèmes, si on va parler par exemple de la navette spatiale, elle était amenée donc en position verticale. Si vous prenez le Soyouz russe, puisque nous en avons parlé dans une précédente émission, il arrive couché sur rail, sur train, et après il est relevé.
D'accord, donc on voit un petit peu cette base de lancement, les différents métiers, les différents lieux, production, arrivée, stockage, l'assemblage, le transport sur le pas de tir et le pas de tir lui-même. J'imagine aussi que c'est un lieu qui accueille du public, mais on verra peut-être ça tout à l'heure après cette pause musicale. Thank you. Alors, ces bases de lancement, Jean-Michel, elles sont implantées ici ou là, il y en a quelques-unes sur la planète. Y a-t-il un lieu particulier où il convient de les implanter?
Alors, la géographie des bases répond à des facteurs géopolitiques et technologiques, facteurs de site au sein des espaces territoriaux nationaux. Hein, ça, c'est la grande définition.
D'accord.
Hein, pourquoi? Ben, je veux dire que la France, si on prend notre exemple, avait le désert algérien avant, donc, lorsque l'Algérie était possession française. Donc, on avait Amaguir. Hein, donc, c'était une zone dans le désert, sans risque, pas trop mal placée vis-à-vis de l'équateur. Donc, bon, mais nous n'avons plus Amaguir aujourd'hui, donc il a fallu trouver un autre lieu, voilà. Donc on avait la Guyane.
Alors deux choses là, vous évoquez à la fois le désert et puis à la fois l'équateur.
Oui.
Donc si je comprends bien, on va plutôt chercher à les implanter loin des villes, près, dans les déserts, ou peut-être sur le littoral, on en connaît beaucoup aussi qui partent sur l'océan, sur la mer, etc.
Oui.
Donc pourquoi les implanter là? De même que pourquoi chercher à se rapprocher de l'équateur? Alors sur le désert et sur le littoral, on voit qu'il y a un problème de sécurité, de récupération.
Exactement.
Voilà. C'est la plupart qui sont implantés sur le long d'un littoral.
Pas forcément. Donc, on a parlé de Kourou, on a parlé de Cap Canaveral, mais si vous prenez le Kazakhstan, par exemple,
ouais,
Baïkonour, on est vraiment dans les steppes du Kazakhstan. Il y a des territoires immenses, loin de toute terre habitée. Hein. La Chine aussi. Donc, la Chine a procédé à l'évacuation de beaucoup de populations pour construire ses bases, avoir des terrains assez grands. Je pense une future base aussi qui se construit en Russie, c'est Vostochny, donc Sibérie du Sud, là-bas.
Donc on recherche effectivement des lieux relativement plats, j'imagine, déjà, et puis plutôt à l'écart des concentrations humaines, plutôt à l'écart des villes.
Voilà.
Donc l'équateur maintenant, pourquoi l'équateur est important dans l'implantation d'une base?
La situation des bases, on va dire, en latitude, est un facteur géographique de première importance.
Alors, hein. Pourquoi?
Donc l'équateur, vous en parlez, c'est qu'on va gagner aussi, puisque la Terre tourne, à la vitesse de 1675, je crois,
kilomètres
à l'équateur,
ouais.
À vitesse. Donc, ça tourne. Donc, en tirant vers l'est, on va gagner un peu de carburant, de puissance.
Donc, en fait, que l'on comprenne bien, donc, la Terre tourne effectivement à cette vitesse de 1600 kilomètres d'ouest en est.
Oui.
Et donc, on va aller chercher à se mettre sur cet équateur, parce qu'effectivement, plus on est près de l'équateur, plus on tourne vite avec cette Terre. Au pôle Nord, on fait zéro à l'heure.
Ben oui, on n'imagine pas dans ces.
Et donc, on
Nord.
A déjà gagné 1600 kilomètres heure. C'est ça que.
Oui, alors ça se calcule pas tout à fait comme ça.
Non, mais bon.
C'est des puissances en mètres secondes. Voilà. Voilà, hein.
Donc on utilise déjà cette vitesse de départ, c'est moins d'énergie, c'est moins de vitesse à acquérir.
C'est moins de vitesse, en fait, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme. Mais c'est toujours ça, et surtout ça coûte bien moins cher, voilà. C'est une histoire de coût. Hein,
c'est surtout. Pas nos amis auvergnats qu'on va expliquer que c'est un bon raisonnement. Donc on en trouve effectivement pour cette raison-là du côté de l'équateur. Alors, est-ce qu'il y en a ailleurs qu'à l'équateur, et est-ce qu'on va ailleurs pour une raison précise en particulier?
Ben, on a dit l'équateur, puis en bord de mer, Kourou, c'est idéalement placé.
Voilà,
hein.
Voilà.
Bon, Cap Kennedy, c'est
pareil,
idéalement placé. Oui. Baïkonour, un petit peu moins bien.
C'est
mais...
déjà plus au nord.
Oui, mais regardez, les Russes construisent à Vostochny, donc je vous en ai parlé. Là, donc c'est à 50 degrés nord, hein, 50-51 degrés, donc c'est déjà haut. C'est limite hein, pour, par exemple, atteindre la station spatiale internationale. Ça sera limite, ça sera possible, mais ça sera limite. Alors pour l'instant, il n'est pas prévu de lancer des Soyouz, puisque ce sera une nouvelle fusée qui s'appelle Angara, hein, qui va être lancée cette année. Prévu pour le mois d'avril, en principe pour le premier tir.
Alors, derrière ma question, on a bien vu qu'à l'équateur, on va à l'équateur pour gagner un petit peu de vitesse en tirant de l'ouest vers l'est. Est-ce que toutes les fusées sont tirées effectivement dans cette direction-là?
On peut tirer dans toutes les directions parce qu'on va voir qu'une fois qu'un satellite peut être tiré comme ça pour gagner du temps, puis après on va pouvoir modifier son orbite. Mais modifier son orbite coûte cher. Coûte cher, parce que ça demande des interventions, des calculs aussi. Donc là, on est vraiment dans la géographie de l'espace. Hein.
Alors, on peut peut-être rappeler quand même qu'il y a différents... Bon, il y a les lanceurs, mais les lanceurs lancent effectivement un certain nombre d'objets, de satellites. Alors, on parle de satellites géostationnaires, on parle de GPS, etc. Donc, est-ce qu'il y a un rapport avec le tir? Est-ce qu'on envoie différemment? Est-ce qu'on lance différemment un satellite géostationnaire que, par exemple, le GPS?
Ah ben, le GPS... GPS, donc ils sont à 23 000. Les géostationnaires, c'est en GTO, donc l'orbite, c'est 36 000 km.
D'accord. Donc,
36 000, donc géostationnaire, c'est-à-dire que on a l'impression qu'ils ne bougent pas par rapport à la rotation de la Terre.
Voilà, ils tournent en même temps que la Terre. Donc, vu de la Terre, ils restent au même endroit.
Voilà. Donc, on peut très facilement observer des satellites géostationnaires. J'avais assisté à une conférence de Thierry Legault là-dessus pour photographier les satellites géostationnaires. C'était très, très intéressant.
Si la demande est forte, peut-être qu'Orion peut organiser une soirée à la recherche des géostationnaires.
Ah, c'est une possibilité.
Dans le ciel de Haute-Loire.
Ah, oui, alors voilà, ce sont des sujets autour de l'astronomie, on va dire, qui sont excessivement intéressants. Alors, on n'observe plus les étoiles, on observe les étoiles artificielles.
Voilà, donc il y a des étoiles qui, vues de la Terre, des satellites qui ne bougent pas. Contre, il y en a qui passent.
C'est un petit peu faux, parce que je repense à cette conférence, les géostationnaires, ils ne bougent pas, mais on peut les observer, les photographier, ils bougent quand même un petit peu.
D'accord. Voilà. C'est pas aussi simple que ça.
Non, parce qu'on va parler de plan d'orbite, on va parler de degrés, donc on va rentrer dans des calculs scientifiques.
Pour rester simple, même en raisonnant un tout petit peu faux, il y a ceux qui semblent rester au même endroit et puis il y en a qui balayent carrément la Terre. Ouais. Alors, qu'on les lance différemment?
Je reviens juste sur ceux qui semblent rester. C'est les héliosynchrones aussi, donc ils vont rester un petit peu par le balayage du Soleil. Vous voyez, ils vont avoir cette position-là.
D'accord.
Alors, vous me demandiez là, donc les autres. J'ai envie de dire, ça tourne dans tous les sens.
Et est-ce qu'on les lance différemment?
Alors, on va les lancer, on va faire un point d'injection, c'est-à-dire qu'on va lancer la fusée, on va viser une orbite, on va viser le point d'injection, le moment où le satellite va être libéré, et donc pour pouvoir après affiner sa mise en orbite. Alors, lorsque c'est un géostationnaire, effectivement, il faut monter à 36 000 km, donc la fusée va lancer, premier étage, deuxième étage, premier étage, et puis ensuite, il va commencer à se mettre en orbite, et ensuite de là, on va refaire une élévation, donc de la propulsion, grâce à le carburant embarqué pour aller le mettre sur son point final. Et c'est ça qui coûte cher.
Donc, loin des déserts, loin des villes, enfin, près des déserts ou dans les déserts, loin des villes, et si possible près du littoral, le plus près de l'équateur, nos bases de lancement se trouvent là. Et on peut dire qu'elles peuvent lancer n'importe quel satellite. Par exemple, à Kourou, on peut lancer...
Alors, à Kourou, parce qu'à Kourou, c'est idéalement bien placé. On peut lancer donc en direction du nord aussi, puisqu'on a la mer. En direction de l'est, on a la mer. Donc, pas de risque de retomber sur les populations. Et puis aussi, les risques chimiques. Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais un lanceur, donc au moment où on va produire des gaz, on l'a vu avec tout à l'heure dans les Carnot, tout ça, il y a excessivement de fumée toxique, donc tout ça c'est pour protéger les populations. Et puis le risque ultime, qui heureusement n'arrive pas souvent, c'est d'être obligé de détruire le lanceur. Donc il vaudrait mieux le détruire sur la mer plutôt que sur des zones habitées.
Jean-Michel, revenons quand même deux minutes sur le lancement. Sur les lancements, on a vu qu'il y avait des lancements de l'équateur qui allaient sur l'est. Il y en a aussi qui partent en direction du nord. Et spécialement, on les tire spécialement dans cette direction. Pourquoi ?
Pour des orbites polaires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir cartographier. Donc la planète, elle est inondée de satellites suivant toutes les altitudes. Donc on va commencer à 300-400 km jusqu'à 36 000 km. Donc il y a des satellites qui tournent dans tous les sens. Faites une observation la nuit, vous verrez tous ces petits points lumineux qui passent. Hier, par exemple, nous avons lancé Sentinel-3. Il n'a pas été lancé, c'est un satellite de l'Europe, mais qui a été lancé par une fusée russe, une fusée Rokot, je crois, donc de Plesetsk. C'est sur la base qui est nord-baltique,
qui est assez haute en altitude.
Tout simplement pour avoir cette orbite un petit peu nord-sud, polaire, pour cartographier un peu la Terre. Donc lui, il va balayer du nord au sud pendant que la Terre tourne d'est en ouest.
On a compris qu'il y avait beaucoup de monde et que ça bougeait dans tous les sens.
Alors suivant ce qu'on fait. Après, dans un satellite, suivant qu'il est passé, il y a ce qu'on appelle la fauchée. comme le faucheur avec sa faux.
Alors la fauchée.
La fauchée, c'est une zone plus ou moins large que le satellite va balayer en fonction de ses passages autour de la Terre. Donc pendant que le satellite va faire un passage, par exemple, sur la France, hein, il va tourner, on va dire, en 1h30, 2h, hein, suivant sa position. Et lorsqu'il va repasser au même endroit, la Terre se sera déplacée.
Comme un faucheur.
Comme un faucheur. Donc, il aura fait une rangée, puis il va faire une deuxième rangée. Et c'est pour ça qu'on lance des satellites sur différentes orbites, par rapport à ces degrés-là, qui vont permettre de faucher ce que l'on veut voir, ce qu'on veut faucher.
Alors, après ce fauchage et ce balayage, effectivement, on en vient quand même maintenant aux grandes bases de lancement du monde en service actuellement. Donc on va en trouver en Union soviétique, en Russie maintenant, aux États-Unis, l'Amérique et puis bien entendu l'Europe, mais aussi la Chine, etc. Alors quelles sont ces principales bases de lancement aujourd'hui en service? La Russie d'abord.
Alors c'était la première. C'est Baïkonour.
Baïkonour.
Donc Tsuratam exactement.
Alors Baïkonour qui n'est pas en Russie aujourd'hui?
Non, c'est au Kazakhstan. Donc, pour l'instant, les Russes sont locataires donc, de ces terrains-là. Ils ont des contrats qui ont été signés du fait de l'effondrement de l'Union soviétique. Tsuratam. Pourquoi Tsuratam? Parce que c'est situé à 300 km au nord de Baïkonour. Et les Russes avaient construit cette base pour brouiller un peu les pistes au moment des premiers lancements dans les années 50. Ça a été très vite repéré, hein, parce que vu que d'en haut, tout le monde surveille tout le monde. On peut observer ce qu'on veut. Donc, Tsuratam est très vite repéré. Par les satellites espions américains à l'époque. Et donc, on a toujours parlé de Baïkonour.
Donc, c'est le nouveau Baïkonour, en quelque sorte.
Voilà, c'est immense. Hein. Alors, en kilomètres carrés, je crois que c'est une des plus grandes bases mondiales.
Oui, on n'a peut-être pas insisté sur l'espace nécessaire à chaque base de lancement. Il y a beaucoup de mètres carrés nécessaires.
Disons,
on a vu tout à l'heure sur les distances. Mais...
Voilà, donc la Russie à l'époque avait beaucoup de terrain, hein, donc puisque c'était l'Union soviétique avait tout ce désert du Kazakhstan, donc il y avait de la place, on pouvait agrandir, faire des kilomètres, construire des voies ferrées pour amener tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Il est bien évident que le Japon a moins de place.
Oui, sur la Russie quand même, il y en a quelques autres. Pour en citer les deux ou trois autres.
Alors, on a parlé du lancement de Sentinelle, hein, donc ça s'est passé à Plesetsk, c'est sur le Nord-Baltique. Donc au début, c'était une base très militaire, lancement de missiles, au début de la conquête spatiale, hein, voilà. Et puis aujourd'hui, on fait des tirs civils aussi, de Plesetsk.
D'accord.
Après, donc, si on reste sur la Russie, il faut parler de Vostochny, puisque c'est en construction. Grande base. Donc, il y en avait d'autres en Russie aussi qui ont été plus ou moins abandonnées. Après, c'est une question d'argent aussi. Hein. Un pays comme la Russie qui est immense pourrait construire beaucoup plus de bases, je veux dire, presque un peu partout.
On en a cité trois qui sont les principales.
C'est les principales.
Bien entendu, il y en a quelques autres qui sont également en service. Donc, ce sont quand même des bases qui lancent en particulier sur les lancements humains, qui lancent par exemple les cosmonautes américains peuvent partir de cette base soviétique. Et réciproquement.
Alors voilà. La seule base aujourd'hui qui permet de lancer des hommes vers la station spatiale, donc des vols humains, c'est Baïkonour.
C'est Baïkonour.
Voilà, d'accord. C'est le seul pour l'instant. Alors, on attend avec l'Amérique, hein, puisque les USA sont en train de construire un pas de tir aménagé sur le site de Cap Kennedy. Mais 2017-2018.
Alors justement, allons aux États-Unis. Donc, même question, les principales bases des États-Unis, principales bases de lancement?
La principale, on a tous entendu parler de Cap Canaveral.
Canaveral.
Rebaptisé Cap Kennedy, c'est vraiment la très grande base.
C'est la star de l'histoire de la conquête spatiale.
De la Lune. Hein.
Baïkonour
Ce sont les deux stars. Alors ensuite,
est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui, vous avez en Californie, vous avez Vandenberg, qui lance toujours des fusées, puisque la semaine dernière, on a lancé un satellite militaire.
Alors Vandenberg, on est côte ouest.
Californie, là-bas, oui.
Oui, côte ouest, c'est le Pacifique. On retrouve effectivement ce littoral
tout à fait,
de tout à l'heure.
Voilà. Donc les fusées Titan, Atlas, américaines, sont lancées de là-bas.
D'accord.
On a une base aussi, Valops, côté est,
États-Unis.
C'est sur une île, hein, une petite île vers Valops, là. Donc, qui sert aujourd'hui de station de poursuite, mais qui pourrait toujours être aménagée pour lancer, il y a eu des petites tir de fusée, mais j'ai pas souvenir qu'il y en a eu ces dernières années là. Mais bon, c'est une base spatiale à compter, VALOPS à compter pour les États-Unis.
D'accord. Et puis là aussi, certainement beaucoup d'autres, plus ou moins.
Alors, il y en a eu en Alaska, mais voilà, qui ont été abandonnés. Voilà.
Alors, nous parlerons de Kourou dans notre prochaine émission, donc on va pas s'étendre. Mais voilà, il y a effectivement le centre spatial guyanais de Kourou, qui est la base de lancement européenne.
Le CSG, voilà, hein, comme on l'appelle.
Donc on aura l'occasion d'y revenir. Il y a également maintenant, et de plus en plus, la Chine, l'Inde, l'Italie aussi, le Japon. Alors, la Chine, ils en sont où, la Chine, en termes de...
Alors, la Chine, il y a trois grandes bases, c'est Jiuquan, Taïwan, alors c'est pas Taïwan, c'est Taïwan, c'est T-A-I-Y-V-A-N, hein, donc c'est situé au centre de la Chine, et Xichang, voilà.
Xichang, alors on a aussi l'Inde, les Indes qui ont leur base.
Alors l'Inde, donc grande puissance spatiale, donc qui lance des fusées, donc le centre spatial de Satish, donc Sriharikota, donc sur 13 degrés de latitude, vous voyez, donc c'est un centre actif, hein, donc orbite basse, orbite polaire, interplanétaire, géostationnaire.
Alors, on a également le Brésil, on pourrait en citer bien d'autres, Israël, la Corée. Il y a une base qui était originale, je ne sais pas si elle est toujours en service, c'est l'Italie qui avait une base sur une plateforme pétrolière.
San Marco.
San
donc,
Marco.
Au large du Kenya.
Au large du Kenya, donc près de l'équateur.
L'Italie a lancé donc, des petites fusées au début de la conquête spatiale, hein, surtout des fusées sondes, on va dire, et avait un projet dans ses cartons qui s'appelait à l'époque Vega, et nous le retrouverons.
En particulier là, dans notre prochaine émission sur Kourou.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.